La grippe aussi, c'est rire.
Tu es le pilier,
tu es le pilier qui tient ma vie.
Tu es le pilier,
tu es le pilier qui tient ma vie.
Seigneur
Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie. Ma vie.
You are the pillar.
You are the pillar that holds my life.
You are the pillar.
You are the pillar that holds my life. My son Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life.
Ça commence seulement à venir. Vous n'êtes même pas encore au niveau où je vous attends. Même pas aux échauffements. Je n'enseigne pas si je ne suis pas content. Là, alors, c'est la grève maintenant. On recommence, Michael. On fait la version française, on fait la version anglaise. Jusqu'à ce que j'entende les âmes s'élever au niveau où l'esprit saigne les attaques. Attendez, il y a une chose qui me vient à l'esprit. Dieu n'est pas d'accord que quand il n'est pas là, dans les choses qui ne le concernent pas, vous soyez en joie. Quand lui, il est là, vous êtes triste. Mais ce n'est pas concevable. Je voulais vous annoncer une bonne nouvelle, mais vous ne m'encouragez pas. Michael, on recommence.
Tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier.
Qui tient ma vie. Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie.
Tu es le pilier,
tu es le pilier qui tient ma vie. Tu es le pilier. Ma vie, Seigneur Jésus, tu es le pilier qui tient ma vie.
You are the
pillar that holds my life.
You are the
pillar. Jesus, that holds my life.
Master
Jesus, that holds my life.
You are the pillar
that holds my life.
You are the pillar.
My life, Master Jesus, that holds my life.
Master
Jesus, that holds my life.
Tu es le pilier,
tu es le pilier qui tient ma vie.
Le pilier
qui tient ma Jésus, pitié, ma vie, Seigneur Jésus, pitié, ma vie.
Même les applaudissements, on l'a dit. Amusant est Dieu. Il est écrit dans sa parole que si les hommes ne savent, ne veulent pas adorer, même les pierres, il va les exciter. Là, on commence à avoir la bonne température. Comment? Asseyez-vous. Il a fallu que l'envoyé mette du temps.
C'est normal,
les enfants, si vous oubliez les sifflets dimanche, je vais vous mettre la clé 14 comme au quartier.
Personne ne va séparer.
Et personne ne va séparer. Il faut là-bas au moins deux sifflets, que ce soit celui qui en a deux. Nous avons eu un très grand miracle. On est habitué au miracle, c'est vrai. Nous avons eu un très grand miracle cette semaine-ci. Une dame que Edith ici présente a amenée a accouché après une grossesse de 14 mois. Edith va prendre une respiration pour faire le témoignage dimanche. Parce qu'il faut vraiment prendre une respiration pour faire genre le témoignage. Et j'espère que cette femme-là ou son frère qui était là vont aussi témoigner dimanche. C'est un fait exceptionnel. On va en reparler. Et nous avons eu la grâce que comme elle est bilingue, elle a sorti son témoignage en français et en anglais. C'est disponible sur Internet. Un journal qui siège aux États-Unis a décidé d'en faire la une les prochains jours.
Amen.
Applaudissez au moins pour le journal. Moi, je vous donne ma version, même si on va avoir la version complète dimanche. Ma version est très simple. Je vois cette femme ici dimanche. Elle était assise par là. Je ne sais pas qui c'est. Au moment où je la touche, je lui dis, tu vas accoucher dans 3 jours. Et je passe. Quand je la reçois, c'est là où je me rends compte que c'est un cas qui m'a été annoncé d'une femme qui est enceinte depuis 14 mois. Bon. Et je leur dis, vous n'allez pas à l'hôpital. Pour l'instant, aucun médecin ne doit vous toucher. Parce que quand ils ont fait les examens pour une grossesse assez bizarre, qui apparaissait et disparaissait, elle est réapparue récemment. On allait faire les examens. L'échographie ne montrait qu'une boule noire, une masse noire qui n'était même pas identifiable. Et le médecin dit qu'il veut opérer, il veut opérer quoi. Il dit que quand elle part, après que je l'ai traitée, elle passe une bonne nuit. Le soir, le Seigneur me donne le rapport, il me dit, dans le ventre, là, il n'y a pas de bébé. Il y a 2 serpents et 2 souris. Puisque quand j'ai posé la main, j'ai senti un animal se déplacer. D'abord, l'Esprit Saint m'a dit, c'est un serpent qui se déplace. Puisque j'ai posé la main, c'est le feu qui sort naturellement, bien sûr. Lui, il s'est déplacé parce qu'il ne veut pas rester là où il y a le feu. Alors, je demande à Edith, justement, ramène-moi les gens là en urgence au bureau lundi. Parce que le lundi, moi, il ne reçoit pas. Il reçoit et jeudi, c'est la norme. Ramène-les-moi au bureau. Elle n'a pas de difficulté à les convaincre qu'ils reviennent. La femme vient très contente. Elle a bien dormi. Elle a retrouvé la bonne humeur. Mais c'était seulement le grand sarclage. On n'avait pas encore traité le focus, le problème central. Et c'est là que je lui dis que, bon, en fait, dans le ventre-là, il n'y a pas de bébé. Hein. Il y a 2 serpents, 2 souris. Le bébé est en captivité. Je fais donc ce que le Seigneur m'a indiqué. Il m'a dit, tu tues les serpents, tu tues les souris et tu ramènes le bébé.
Amen.
Dès qu'on finit de faire le travail là, on lui dit que tout va bien, bye, il n'y a plus de problème. Il dit, nous contacte à 20h, qu'elle a une contraction. Il dit que non, il n'y a pas de problème, allez à l'hôpital. Là maintenant, il dit, allez à l'hôpital. 3h du matin, l'enfant naît, une fille, 3 kilos, 300.
Applaudir les miracles aujourd'hui, tu vous êtes assis.
J'apprends deux choses parmi tant de choses. Vous pouvez vous asseoir. J'apprends que la famille est contente parce que c'est le premier petit-fils dans la famille. Là. J'apprends que, après, la femme dit que la mère, là, patience, comme ça, c'est patience, non? Patience en anglais, patience. Patience dit après que, mais elle voyait les nains, les gens petits de taille, les démons petits de taille. Lui dit que, mais on avait vendu l'enfant, c'est eux qui assureraient l'escorte, qu'est-ce que tu crois? Elle les voyait étant éveillée. Et vous savez, quand vous êtes sous l'onction, c'est-à-dire que quand c'est l'Esprit Saint qui vous tient, vous, moi, je ne me rappelais pas. C'est après qu'elle a dit que, mais l'homme de Dieu a dit que je vais accoucher après 3 jours. Que me rappelle que oui, au moment où je l'ai touché, c'est ce que j'ai déclaré. Et effectivement, là, le Seigneur a marqué les super bonus. La foi a remonté dans la famille, là, en grande puissance. C'est parti. C'est monté comme ça en flèche. Pion! Tout le monde sait que Jésus-Christ est vivant là-bas maintenant. Que Jésus lui-même. On ne raconte pas ça. Donc, je voulais vous annoncer cette nouvelle. Et j'ai autre chose à vous dire. Je vais dire ça comme les blagues, mais je suis très sérieux. Le Seigneur a ouvert la saison des miracles. Amen. Il va avoir des miracles dans ce ministère. Comme ça. C'est même pas ce qu'Aurélien dit souvent quand on sort. Ça va tomber de tous les côtés. Parce que ce que Dieu a décidé de mettre dans ce ministère, je vous dis le secret. Quand vous êtes venu mercredi, vous avez droit au secret. Les autres qui viennent couillant le dimanche, comme ça, ils trouvent que nous, on a géré les secrets dans le bas. Ce qui va se passer dans ce ministère, c'est qu'il y a certains dons dans ce ministère qui vont s'exprimer, qui ne sont même pas répertoriés dans la Bible.
Wow.
Oui, à ce point. Je ne dis pas plus que ça. Vous devez savoir que l'apôtre Paul a reçu une révélation. L'Esprit Saint lui a donné 9 dons. Ça ne veut pas dire que Dieu m'a déjà dit ça depuis longtemps. Mais quand ils disent qu'il n'y a que 9 dons spirituels, donc moi, Dieu, il me limite. Ils peuvent compter les dons qu'ils peuvent verser sur quelqu'un. C'est 9 dons spirituels qui ont été révélés à l'apôtre Paul. Ce n'est pas 9 dons spirituels qui existaient pour Jésus-Christ. D'accord? Il faut que votre esprit soit bien large, bien ouvert à l'impossible. Vous savez, quand on entre dans cet esprit, on comprend. On commence à réaliser que le surnaturel est normal. Carole, ça va? Il faut souvent nous amener les cas compliqués comme celui-là. Quand il dit qu'amener les cas compliqués, vous ne comprenez pas. Oh. Je cherchais le repos. Vous savez, le genre de grâce matinée que seul le corps te demande là. Je me lève, je travaille, je veux dormir. Coup d'homme m'appelle. Ouais, okay. Le téléphone, si je connais le numéro aussi. C'est quoi? Papa, il y a un cas ici, elle est en train de mourir. Effectivement, quand elle me dit ça, moi, je vois une personne morte qu'on est en train de m'amener. Je parle ce matin. Mais quand je les vois sortir du taxi, je vois que la fille bouge encore. Elle dit, ah, dis donc, tu croyais que c'était plus compliqué? Sa mère est venue avec une bouteille d'eau. J'ai pris directement la bouteille, j'ai béni, j'ai dit que donne à ta fille qu'elle boit. Dès qu'elle a pris à but.
Elle veut pisser.
Première réaction. Il dit qu'elle est pissée, moi je vous attends ici. Moi j'ai compris ce qui se passe. En fait, il avait déjà amené. Et pendant qu'ils étaient sur le trajet, on était en train de lui dire que de toute façon tu t'embrouilles pour rien. Tu t'embrouilles pour rien, tu vas mourir. Elle ne tenait plus debout, il n'y avait plus rien. Elle est vide, elle ne mange pas depuis longtemps, elle ne consomme que des fruits, maigrichonne, tout ça. Oh, est-ce que c'est moi qui travaille? Si c'est moi un instrument, elle dit non. On a commencé le massacre. Boum, 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 tout bombardé d'abord. Le supérieur de Napalm, c'est quoi? C'est la bombe? bombe atomique, quoi. On a brûlé tout, quand on a fait tout brûler avec un bord. On a fini de brûler au quelque part du cas ici. On a ramené son esprit. Quand nous avons fini à ramener l'esprit, nous avons enlevé les masques, tout ça. J'ai dit nous pourquoi, c'est l'esprit Saint et moi et les anges, tout ça. Donc on était nombreux à travailler. Ça s'est passé à grande vitesse. On ne vous montre rien à la télé. Si on vous montrait ce qu'on fait dans le monde spirituel, vous rendrez compte que la télé est au ralenti. Il n'y a rien là-bas. On finit, allez. Il dit qu'il y a une pierre là, enlevée là. Il y a les brindilles de bâton là, enlevées. Les chaînes enlevées. Voile enlevée. Masque enlevé. Enlevé, enlevé, enlevé. On n'a pas fait 5 minutes, ça fait ça changer, non? Au bout de 10 minutes, j'ai dit à la fille là de se lever. Quelqu'un qui ne savait pas ça, même regarde comme ça, fait tendance, c'est la blague ou quoi. Dès que lève-toi et viens vers moi. Et s'est levé. Et elle a commencé à marcher. En vérité, je vous le dis, vous aurez dans ce ministère, s'il vous plaît, tous les miracles que vous avez vus dans la Bible, plus tout ce qui n'est répertorié nulle part dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, place à l'enseignement. C'est que j'ai le cœur tellement joyeux que je ne pouvais pas commencer sans vous transmettre ma joie. Ouais. Pasteur Serge Nkoué, ton visage est beau. Hein?
Il y a les petites. Hein?
Hein? Non, je parlais de beauté spirituelle. Laisse-le d'abord tranquille. Hein? Nkoué Serge François, tu es tout rayonnant le soir comme ça, c'est bien. La gendarmerie va bien. Hein? Tu commences à briller. Hein? Ah, là, tu as compris. C'est bien. Nous avons un enseignement qui va s'achever dimanche, que nous commençons aujourd'hui, dont le thème c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Aurélien, est-ce que les gens auront tous les enseignements sur plusieurs mois dès la semaine prochaine? Ou c'est cette... D'accord. Parce que là, ça va être bon. Comité d'organisation. Il semble que la décoration est entre le 9 et le 21, donc le mois prochain. Donc, on va revenir dessus. Et vous avez dit que vous allez caler là-bas. Vous êtes les organisateurs des fêtes. Comme ça, quand la date du mariage sera aussi adaptée, vous allez arrêter, vous allez aussi caler là-bas pour organiser ça. C'est pas. Hein? Tu penses à ta cousine? Dis à ta cousine que c'est déjà bloqué là-bas. Cadenassé. Et scellé. Alors, donc je vous ai tendu que la crainte de l'Éternel est la thématique que nous traitons cette semaine. Aujourd'hui, nous allons parler de la crainte de l'Éternel et en fait, dimanche de la semaine, si, nous allons achever l'enseignement sous l'angle pointu que représente la crainte de l'Éternel et ses implications sur notre vie personnelle. Ça sera dimanche. Donc nous commençons par la crainte de l'Éternel. En fait, quand on regarde l'Ancien Testament, le peuple de Dieu reçoit souvent l'ordre de craindre Dieu ou de craindre l'Éternel. C'est important de le savoir. Il est important que nous sachions ce que ce commandement signifie. Parce que c'est un commandement pour nos croyants, car ce n'est pas ce que nous croyons généralement comme perception de Dieu qu'il faut intégrer. Mais il faut plutôt voir les éléments qui sont liés à cette compréhension de la crainte. Parce qu'à travers le Seigneur, nous pouvons être délivrés de l'esclavage, de toute crainte qui sort de la normale et toutes celles qui viennent, n'est-ce pas, des influences sataniques. Regardons donc la crainte de l'Éternel et sa signification. Craindre l'Éternel est un commandement assez vaste quand on veut regarder. C'est vraiment un commandement assez vaste qui comprend plusieurs aspects différents de la relation que les croyants entretiennent avec Dieu. Premièrement, craindre l'Éternel en ce qui concerne la crainte de Dieu, c'est de reconnaître qu'il est saint. Donc, reconnaître sa sainteté et sa justice. Parce que ça va en paix, la sainteté de Dieu et sa justice. Et voir aussi son amour et sa miséricorde. Je vous ai montré deux tableaux. La sainteté et la justice d'un côté, l'amour et la miséricorde de l'autre. C'est ça craindre l'Éternel dans la première intellection, la première compréhension, la première interprétation, la première perception que l'on peut s'en faire. Donc, c'est savoir comprendre parfaitement qui il est, c'est-à-dire Dieu. Prenez Proverbe 2:5, on évolue. Proverbe 2:5. Donc une telle crainte est fondée sur le fait de savoir que Dieu est un Dieu saint. Et que, en tant que tel, il ne peut rien faire d'autre que de juger le péché. Proverbe 2, 5. Vous pouvez lire ça.
Proverbe 2, verset 5. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen.
Amen. Donc il y a cette dimension de compréhension. Comprendre l'amour, la miséricorde. Comprendre la sainteté et la justice. C'est déjà la première compréhension qu'on peut se faire de la crainte de Dieu. Donc, deuxième compréhension. Craindre Dieu, c'est donc le considérer avec respect et révérence. Et parce qu'il est Dieu, c'est l'honorer pour sa grande gloire, sa sainteté, sa majesté et sa puissance. Vous savez, quand on parle de ça, notez Philippiens 2, 12. Quand on parle de ça, il y a une image qui me vient à l'esprit. Philippiens 2, 12. L'image qui me vient à l'esprit, c'est que nous, les hommes, nous accordons beaucoup de considération aux hommes puissants. Or, les hommes puissants qui ne sont que des créatures, si on est capable de leur accorder une telle considération, à plus forte raison, au Créateur, quelle considération est-ce qu'on accorde? Vous comprenez quand même, quand on comprend, quand on dit qu'on doit avoir un respect pour la révérence, avoir de la révérence, la considération pour sa grande gloire, pour sa sainteté. Les hommes puissants que vous respectez, là, ils sont même saints. Les chances pour qu'ils soient saints sont d'une sur un milliard. Mais vous les respectez. Oh, le puissant, vous les appelez un puissant. Oh, le puissant DG, oh, le puissant gouverneur, le puissant. Puissant de quoi? Comparé à qui? Vous pouvez me dire, ça France, Dieu se retourne sur toi en disant que blasphème. Évitez d'appeler les hommes comme ça, comme le puissant. C'est pas correct. Donc, il faut envers Dieu le respect, la révérence, honorer la grande gloire qui est la sienne, sa sainteté, sa majesté, sa puissance. Donc, on peut citer à titre d'exemple l'événement qui a lieu dans le désert du Sinaï, lorsque les Israélites viennent, qui virent Dieu se manifester, parce que c'est quand même un cas très intéressant. Il y a eu des tonnerres, des éclairs, une fumée, une nuée épaisse sur la montagne, des grondements, le son de la trompette retentit fortement. Le texte ajoute d'ailleurs que tout le peuple fut saisi d'épouvante. Lisons un peu Exode 19, le verset 16. Exode 19, le verset 16.
Exode 19, au verset 16. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le champ fut saisi d'épouvante. Amen.
Amen. Tout ce que les gens ont entendu là, ça ne venait pas des hommes. Ça venait de Dieu. Et ils ont vraiment eu peur. Au point qu'ils ont supplié Moïse de lui parler. Je vous ai déjà raconté ça. Quand Dieu a parlé comme ça, il s'est manifesté comme ça. Le peuple d'Israël a dit que non. Va causer lui, tu viens nous dire. Et tu sais, que chaque fois qu'il parle, tout son tremble. De la tête aux pieds. Le sol tremble vraiment. Nous, on ne peut pas poser dans les telles conditions. Il nous fait peur. C'est ce qui s'est passé, effectivement. À tes souhaits.
Quelle est cette histoire?
Moi, j'aime les éternuements. Ça permet de bénir les gens. Dans le poids, bon, le peuple supplia Moïse, n'est-ce pas, de lui parler au lieu que ce soit Dieu qui le fasse. Donc vous lisez Exode 20, le verset 18 à 19 qui explique ça. Deutéronome 5, le verset 22 à 27. J'ai envie que vous lisiez ça. Exode 20, le verset 18 à 19. Deutéronome 5, le verset 22 à 25.
Exode 20, verset 18 à 19. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante.
Oui.
À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse.
Il y a l'Exode 20, le verset 18 à 19, et ensuite Deutéronome 5, le verset 22 à 27.
Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Amen.
Amen. Donc, de même, le psalmiste, ceux qui ont écrit les psaumes, c'est David qui les a écrits, dans son commentaire sur le lieu de Dieu créateur, déclare que toute la terre craigne l'Éternel et que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Le psaume 33, le verset 8 à 9 le dit clairement. Psaume 33, le verset 8 à 9. Troisième compréhension de la crainte de Dieu. La véritable crainte de Dieu conduit le croyant à placer sa foi et sa confiance en lui seul pour son salut. Quand la crainte de Dieu, il doit avoir confiance en Dieu. En Dieu et en Dieu seul. Nous voyons par exemple qu'après avoir franchi la mer Rouge à pied sec, après avoir assisté à l'anéantissement de l'armée égyptienne, le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel. Exode 14, verset 31 le dit. Bon, ce qui est curieux dans le peuple d'Israël, qui est curieux aussi dans certains ministères, est que même après les miracles, les gens rentrent encore dans l'incrédulité. Le peuple là qui s'est montré incrédule a vu, hein, a vu d'abord les 10 plaies d'Égypte. C'est quand même qu'on recommence au début. Les 10 plaies, ils ont vu. Les 10 plaies sont finies. Ils ont vu comment, avec un simple bâton, Moïse a ouvert la mer. Ils ont traversé. Ils ont vu comment la mer a englouti l'armée du tout-puissant pharaon de l'époque. Après ça, ils ont dit que, ah, dis donc. Ils ont vu comment, en marchant en journée, ils étaient protégés du soleil. Mais c'est quelque chose, je ne peux pas laisser l'affaire là. Ça me traumatise quand j'y pense. Ils ont vu tout ça. Vous marchez dans le désert, le soleil ne vous chauffe pas parce qu'il y a une espèce de brume qui est au-dessus de vous qui vous protège. Ça fait, la température est douce. Là où vous êtes, partout ça chauffe. Mais là où vous êtes, vous avez le climatiseur au désert, en plein jour. La nuit, vous avez une torche. Vous ne savez pas comment la lumière là est. Mais vous êtes dans la lumière. On finit, vous dites que le Dieu là vraiment, allons faire le truc avec le mouton et l'or. Chaque fois que je passe à cet endroit, je dis que vraiment, hein, il y a quelque chose que je ne comprends pas chez l'être humain, quand même. Je ne comprends pas ça. À ce point-là, ils ont vécu des démonstrations de puissance hors échelle. Parce que les 10 plaies d'Égypte, c'est un précédent. Le fait qu'on ait ouvert la mer, l'Esprit de Dieu ait ouvert la mer par le bâton de Moïse, c'est un précédent. Le fait qu'ils aient marché pendant des jours, des semaines, étant encadrés par l'Esprit Saint visiblement, c'est un précédent dans la gloire de Dieu. La gloire de Dieu était permanente. C'est un précédent. La manne est tombée du ciel. C'est un autre précédent. On leur a envoyé les oiseaux. Comment on appelle les oiseaux là? Quoi?
Les cailles.
Les cailles. C'est la viande que vous voulez. Les oiseaux sont venus s'offrir. C'est un précédent, même jusque-là. À l'époque, là, il y avait dans l'ombre les disciples de Thomas. Non, mais Thomas vient bien après, quoi. Des milliers d'années après, mais vraiment, il y avait derrière ses ancêtres très fonctionnels là-bas. C'est un commentaire que je fais comme ça pour quand même attirer l'attention sur le fait. Vraiment, je ne veux pas être dit ça pour déranger, mais on voit ça beaucoup chez les femmes, hein, dans la marche avec Dieu. Beaucoup de femmes ont ce problème. Elles trouvent facilement la route qui mène à Dieu. Mais elles oublient très vite ce que Dieu a fait pour elles. Mais c'est quand même bizarre. Ce regard ponctuel sur Dieu, il est ponctuel, il est temporel. Donc, ça ne dure pas longtemps. Après, ça, le disque dur s'efface. Mais quand un homme vient faire ça, il double la femme. Lui, alors, c'est plus grave. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important. Par rapport à la crainte de Dieu, bon, je passe seulement par là. Exode 14, verset 31 en fait état. De même, le psalmiste appelle tous ceux qui craignent Dieu à se confier en l'Éternel. Car il est leur secours et leur bouclier. Le psaume 115, le verset 11 le dit. Le psaume 115, verset 11. Autrement dit, la crainte de l'Éternel suscite chez le croyant espoir et confiance en Dieu. Parce que quand on dit crainte, les gens voient la peur de Dieu. Non, si ça n'est pas ça. Il y a des variantes de la crainte de Dieu. Il y a là-dedans espoir et confiance. J'en profite pour te dire qu'il faut changer de sonnerie. L'autre là va te donner mal de tête. Donc, une sonnerie barbare comme ça, là, ça peut donner l'espace à des ennemis qui ne pouvaient pas passer par là. Je disais que la crainte de l'Éternel suscite chez le croyant l'espoir et la foi en Dieu. Il n'est donc pas surprenant que de tels hommes soient sauvés. Lisez le psaume 85, le verset 10. Et qu'ils reçoivent le pardon au nom de son amour et de sa miséricorde. Je vous donne tous les passages par rapport à cette idée. Psaume 85, verset 10. Luc 1, verset 50. Psaume 85, verset 10. Luc 1, verset 50. Psaume 103, le verset 11. Psaume 85, verset 10. Luc 1, 50. Psaume 103, verset 11. Et le psaume 130, le verset 4.
Psaume 85 au verset 10. La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. Amen.
Tu viens de lire quoi? Psaume 85, le verset 10. Tu es sûr que c'est ça que tu as lu?
Psaume 85, verset 10. Oui, ton salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Amen.
Parce que quand on vous dit de lire quelque chose, c'est que c'est ce qui est dedans. Donc, le salut et la gloire appartiennent à ceux qui craignent Dieu. C'est important de savoir cela. Lorsque on parle de l'amour et de la miséricorde de Dieu, le psaume 103, le verset 11, et Luc 1, verset 50, le confirme, ainsi que le psaume 130, le verset 4. Lisez ces trois passages. Je vous dis quelque chose en passant, et c'est très important que vous en rendiez compte. Avec Dieu, ce qui compte, c'est la connaissance. Même en matière de négociation avec Dieu, vous ne pouvez pas... Attends, ma fille, je vais dire quelque chose. Pour négocier avec Dieu, il faut connaître la parole. Vous comprenez ce que je vous dis? Si tu ne connais pas la parole, tu n'as pas d'argument face à lui. La seule façon de réussir une négociation pointue avec Dieu, c'est d'utiliser sa propre parole contre lui. Mais ça, il faut être vraiment correct pour engager ce niveau-là. Parce que si tu n'es pas correct, tu ne peux pas négocier. Il va dire que tu as d'ailleurs échoué. Or, si tu as une bonne connaissance de la parole, tu peux lui-même lui dire que papa, toi-même, ta parole dit que ça applique à l'eau. Il y a des stades dans la relation à Dieu. Il y a des stades. Et c'est dans la connaissance de la parole, donc de Dieu lui-même, que vous pouvez, on va dire quoi, l'amener à changer d'avis sur certains sujets. Quand je vous donne les passages bibliques, là, il faut les connaître. Parce que quand vous entrez dans la prière, à un certain niveau, la prière, c'est ça qui vous sert d'argument. Que tu as dit dans ta parole telle chose, que ce soit valable, que cela s'accomplisse, etc. Mais tu ne veux pas faire les gens en négociation là, étant sale. Il faut que toi-même, tu sois en bonne position. Si tu n'es pas en position de force, tu ne peux pas négocier. Vous comprenez ce que je dis, non? Voilà. Je vous donne les astuces. Vas-y, lis.
Luc 1 au verset 50, il est écrit. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge pour ceux qui le craignent. Amen.
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge pour ceux qui le craignent. Dieu pardonne seulement à ceux qui le craignent. Quand tu ne crains pas Dieu et tu dis qu'il est miséricordieux, erreur. Là, tu es mal barré. Tu ne le crains pas. Tu n'as aucune considération pour lui. Tu dis même que, ah, et puis quoi? Ils regardent ton cœur. Si les hommes savaient, ils feraient attention à ce qu'ils ont dans leur cœur. Dieu voit d'abord ça. La parole dit que c'est pas qu'ils sondent les cœurs et les reins. Tu vas venir lui dire n'importe quoi alors qu'il voit le fond de ta pensée. Quand on a enseigné la prière efficace ici, n'est-ce pas qu'on vous a dit que l'un des critères pour qu'une prière soit efficace, c'est qu'il faut qu'elle soit sincère. Est-ce que ta prière peut être efficace si ta pensée est contraire à ce que tu déclares? Dieu analyse tout ça. Il peut lâcher prise facilement quand il regarde la sincérité dans ton cœur et ce que tu fais. Il peut te donner des bonus insoupçonnables juste parce qu'il voit le cœur avec lequel tu fais les choses. Par exemple, aujourd'hui, vous vouliez qu'il enseigne ou alors que vous n'avez pas le cœur pour l'enseignement. Voilà les exemples, vous ne comprenez pas. Je ne peux pas venir enseigner dans un environnement de tristesse. L'Esprit Saint ne fonctionne pas dans la tristesse. Ou bien il faut toujours vous rappeler qui enseigne ici. Ah, c'est l'envoyé qui enseigne. L'envoyé. Ok, c'est lui que vous voyez. Mais regardez bien. Quand on arrive à un certain niveau, celui qui a l'écoute se rend compte que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Et vous ne pouvez pas demander à l'Esprit de Dieu de travailler là où tout le tristeau. Morne, amorti. Je vous donne des clés pour qu'elles vous servent dans la relation à Dieu et que vous soyez plus performant. Que dit le psaume 130, le verset 4?
Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Amen.
Amen. Bien. La quatrième intellection, la quatrième interprétation, la quatrième perception que l'on pourrait se faire de la crainte de Dieu est que l'on signifie. Elle signifie que l'on reconnaît qu'il est un Dieu qui manifeste sa colère à l'égard du péché et a le pouvoir de punir ceux qui transgresse les lois de la justice, de sa justice, lui Dieu, dans le temps et dans l'éternité. On craint Dieu aussi à cause de ça. On sait qu'il peut se mettre vraiment en colère face au péché et il punit ceux qui transgressent sa loi. Et là, c'est ce qui correspond à votre compréhension quotidienne de craindre Dieu, c'est-à-dire avoir peur de lui. Alors, il vaut mieux avoir peur. Il est écrit dans la parole que c'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu. D'ailleurs, la même parole dit que si l'ennemi t'attaque, Dieu peut te défendre. Si Dieu t'attaque, qui peut te défendre? Il vaut mieux ne pas l'avoir comme ennemi. Si tu l'as comme ennemi, il vaut mieux pour toi que tu sois profondément ignorant que c'est lui en face. Parce qu'il peut encore regarder que, comme tu es ignorant, mais en même temps, comme tu le crains, il se rend compte que tu ne sais pas, il laisse d'abord. Il te donne les opportunités pour te rendre compte de ton erreur. Mais si dans ton cœur, tu ne le cherches pas. Dans tes actes, tu ne le dis rien, tu ne le cherches pas. Tu es là-bas en train de transgresser avec joie. Et chaque fois, tu dis, et puis quoi? Ah ah, d'accord, tu vas le trouver. Parce que certaines personnes disent des choses sur Dieu et ne comprennent pas que Dieu cherche d'abord. J'ai observé, vraiment, je n'ai pas une grande expérience, peut-être. Mais Dieu cherche d'abord à racheter le croyant. Et d'abord ça, il présume. Il part de ce principe, tu ne sais pas. Donc, il s'arrange d'abord à te donner la bonne information pour que tu aies la grâce de t'arrêter pour te dire que, mais, je suis en train d'aller où? Je suis en train de faire quoi? Je regarde quoi? Etc. Et il va essayer pas une fois, il va essayer plusieurs fois. Dieu tente toujours, au pluriel, de te sauver. Sinon, il essaie une seule fois. J'étais sur un plateau de télévision, un grand rosicrucien qui se cache dans les histoires de naturopathes. Se permet de dire que tout ce qu'il connaît de Dieu, c'est qu'il est guerrier. Je l'ai corrigé instantanément. C'est inadmissible. Je lui dis que mais Dieu est miséricordieux. D'ailleurs, on dit que Dieu est guerrier. Que Dieu, quand c'est Dieu-là qui va se mettre en guerre. Donc, l'amour de Dieu, tu as balayé ça. Sa miséricorde. La preuve même qu'il est miséricordieux, regarde tout le temps qu'il laisse à l'homme de se racheter. Toutes les opportunités qu'il donne à l'homme de se racheter. Toi, tu viens dire ici à la télévision que Dieu, tout ce qu'il connaît, un seul, un Dieu qui se ment. Parce que lui, il dit que les chrétiens sont des malades mentaux. Oui. Qu'un Dieu seulement, hein, tout ce qu'il sait faire, quand on lit ta parole, c'est faire la guerre. Que, regarde-moi celui-là. Chaque fois que vous allez définir Dieu en le mettant dans un couloir, vous êtes en train de perdre la bonne définition. J'explique. Si tu dis Dieu est vert, donc tu trouves que la seule couleur que Dieu a, c'est le vert. Si tu dis Dieu est cylindrique, donc toi, tu trouves que la seule forme que Dieu a, c'est cylindrique. Si tu dis que non, Dieu est sphérique dans la seule forme. La définition la plus parfaite de Dieu, c'est Dieu est. Point. Ne va pas le localiser quelque part. Vous comprenez ce que vous dites? Quand vous trouvez un esprit tordu qui commence à définir Dieu, à le qualifier avec sa petite intelligence, dites-lui que tais-toi. Je t'ordonne de la fermer. Parce que ton ignorance commence à atteindre un niveau chronique. Tais-toi. Tu ne peux pas, tu n'as pas qualité pour définir Dieu. La seule bonne définition, c'est qu'il est. Il se présente en disant, je suis celui qui suis. Je suis. Parce que tu ne peux pas le limiter, ni dans le temps, ni dans l'espace. Il est transcendant, il est au-delà du temps, au-delà de la création. Amen. 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 Vous allez les chicoter la parole ici dehors. Et ça a même commencé parce que j'ai souvent des témoignages. Je reste gris dans mon coin. Quand un de mes enfants vient me raconter que, mais, papa, j'ai prêché de 9h à 16h. Personne n'avait faim. Dit que là, c'est en train de venir. Comme un autre me disait que, ils me disent que, papa, tu m'as seulement contaminé. Je parle comme toi. Il dit que, mais c'est ça même. Donc, ayez le confort de revendiquer votre appartenance à Dieu. Et de revendiquer. C'est comme ça que vous allez grandir. Hein. Les onctions vont monter en flèche par là.
Amen.
On vous a dit la semaine dernière que vous êtes des ambassadeurs, non?
Yes.
L'ambassadeur, c'était là-bas. On dit les choses contre son royaume, il ne dit rien. Tu le sens, monsieur. Il défend les intérêts de son royaume. Donc, je disais ça comme ça au passage. C'est une parenthèse, je la referme. Vous devez comprendre ces choses-là. Dieu punit ceux qui transgressent sa justice dans le temps et dans l'éternité. Le psaume 76, le verset 7 à 8, le dit clairement. Il y a quelque chose qui est intéressant. Lorsque Adam et Ève ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont eu peur et ont essayé de se cacher loin de sa présence, loin de la présence de Dieu. Adam et Ève ont mangé le fruit défendu subitement. Quand ils sentent que Dieu s'approche, ils s'en vont se cacher. Dieu les voit bien sûr, mais il demande que vous êtes où. Adam répond que nous sommes cachés. Parce qu'on a réalisé que nous sommes nus. Qui vous a dit que vous êtes nus? Cette référence, vous pouvez la lire dans la Genèse 3, le verset 8 à 10. Je vous ai dit ici, en tant que berger, que quand vous avez réalisé que vous avez péché, empressez-vous de demander pardon sincèrement. Et repentez-vous sincèrement et battez-vous pour avoir une vraie conversion. Le reflet qu'Adam et Ève ont eu, d'un point de vue de la marche avec Dieu, est très dangereux. Ça coûte très cher. Mieux tu viens vite. Peut-être qu'on va te talocher, mais tu es venu. Au lieu de penser que tu vas fuir, tu vas te cacher où? Mais c'est une question que les hommes ne se posent pas souvent. Hein? Tu vas te cacher où? Celui qui vous a enseigné, quand vous êtes dans l'adversité, que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Quand Dieu est en toi, tu veux te cacher, tu te caches de qui? Non, question technique. Tu te caches de qui? Il est là, en toi. Mieux, tu peux te mettre à genoux. Si tu veux, va te mettre à plat ventre. Il y a des enfants qui ont des expressions ici. Il y a un étudiant qui m'a fait rire. Il voulait me dire qu'il est foiré. Il dit que, grand frère, je suis à plat ventre ici où tu me vois. Non, si tu sens que ton péché est du genre que même à genoux, Dieu va comprendre. Tu te mets à plat ventre comme David faisait. Front au sol, bien à plat ventre. Tu verses même la cendre sur toi. Tu commences à pleurer ton sort là une fois. Et le Père, pardon, ne frappe pas. C'est très important de comprendre. Oui, ma fille. Oui, il y a une question.
Bonsoir.
Bonsoir.
Vous voyez, je parlais de Jésus-Christ avec un papa à moi. Et puis j'ai réussi à le convaincre, mais à la fin, il m'a jeté une question. J'ai pu seulement dire, qui es-tu pour questionner Dieu? Mais sa question, je trouvais que je n'avais pas d'argument pour soutenir ce que je devais lui dire. Il me dit, comme tu dis que Dieu est miséricordieux et qu'il a créé Satan, il a rejeté Satan sur la terre parce que Satan était jaloux, il voulait sa gloire au ciel. Si vraiment il est miséricordieux, comme tu le dis, pourquoi n'a-t-il pas plutôt éteint Satan, empêché qu'Adam et Ève puissent pécher pour que tout le monde souffre aujourd'hui? Ça veut dire que ton Dieu est un Dieu méchant. Enfin, vraiment...
Bien. Le problème de cette question est un problème d'abord d'ignorance de la chronologie des événements. Dieu a créé Satan, a créé Lucifer. Lucifer, au départ, n'était pas mauvais. C'était l'ange de lumière. Lucifer était couvert de pierres précieuses. Il avait le commandement. Il était un grand chantre. Il avait même la joie d'être le plus beau. C'est l'orgueil qui a transformé Lucifer au bout d'un certain temps. À force de commander, de voir que mais il est le plus beau, etc. Dieu n'a pas créé Lucifer méchant. Il était bon. Il était bien. Il était obéissant. Mais il s'est rempli d'orgueil. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Lucifer est le tout premier à avoir organisé un coup d'État. Il est arrivé ici avant. Et pour vous dire même la chose, parce que ce n'est pas biblique, moi je suis dans l'enseignement révélé. Quand il arrive ici, après avoir organisé le coup d'État et tout le reste, on les a jetés sur les terres, parmi lesquelles la planète Terre. Puisqu'en fait, quand on dit sur les terres, ce n'est pas juste la Terre, Jupiter et tout le reste, Mars, tout ça. Vous avez les anges déchus sur toutes ces planètes-là. Comme il n'avait pas de vêtements, il est d'abord allé sous la Terre. Il n'a pas de contact avec l'espace. Il est resté sous terre longtemps. C'est quand l'homme est arrivé qu'il a dit que chouette, il y a les habits ici. Mais oui, c'est encore un élément de contact. Dit que pourquoi Dieu n'a pas éteint directement Lucifer? Ça ramène d'abord à une problématique qu'on a soulevée la dimanche dernier. On vous a dit que si Dieu n'était pas patient et miséricordieux, il aurait éteint directement l'espèce humaine. Que bon, comme ils sont défaillants comme ça, mieux on s'arrête maintenant. C'est la même raison pour laquelle il n'a pas anéanti Satan, qui est juste une créature. Parce que Dieu a toujours en esprit que je vais lui donner l'opportunité de se racheter. Or, quand il a voulu donner l'opportunité à Lucifer de se racheter, Lucifer est devenu plus mauvais, de plus en plus mauvais, de plus en plus déterminé même dans la méchanceté, la fourberie, l'hypocrisie. Donc, c'est juste qu'il ne connaît pas la chronologie des choses. Et il ne comprend même pas l'ordre des choses. Quand quelqu'un pose une question comme ça, c'est vrai. C'est pourquoi il faut avoir beaucoup d'enseignements pour être équipé. Sur cette planète-ci, à cause de ce que Lucifer a fait, Dieu est obligé d'organiser des missions spéciales pour mettre de l'ordre. C'est encore la miséricorde de Dieu qui fait qu'il laisse Lucifer faire le désordre sur toute une planète. Des millénaires passés. Il le regarde. Il peut le tuer, non? Il le regarde toujours. Il peut l'anéantir et finir avec. Il le regarde toujours. C'est encore la miséricorde de Dieu qui fait qu'il envoie toujours des prophètes. Il a envoyé. Il envoie. Il verra, bon, ils ont tué tous les prophètes. Je fais comment? Moi, je pars là-bas. J'envoie mon fils. C'est la miséricorde. Que Dieu ne peut pas faire quoi? Il peut ramasser tout ça, dis donc, il fait tout un sac et puis on jette aux enfers, point. C'est la miséricorde de Dieu qui fait qu'il prend le temps de laisser le bon grain, les livrets grandir ensemble. Donc en fait, les gens parlent de la méchanceté de Dieu parce qu'ils ne connaissent rien à la parole, ils ne connaissent rien à l'histoire de l'humanité, ils ne connaissent pas la chronologie des événements. C'est parce que Dieu est miséricordieux qu'il n'a pas anéanti Satan. C'est parce qu'il est miséricordieux qu'il n'a pas anéanti l'espèce humaine. C'est parce qu'il est miséricordieux qu'il laisse même le mal prospérer. Parce que lui, il a décidé que c'est à la fin qu'il va mettre fin à tout ça et créer un paradis où il n'y aura plus de méchants. Pourquoi Lucifer en veut aux hommes à ce point? Il a connu le paradis. Il sait ce que c'est que la richesse. Il a connu une abondance sans équivalent. Et c'est ça qui a fait que, à un stade, il dit que, mais comment? Pourquoi c'est moi qui organise les champs pour louer l'autre? Moi-même, j'ai déjà, non? Qui t'a donné le commandement? C'est Dieu. Tu dis, attends, que tu veux le remplacer. Quand il a commencé à faire ça, c'est Michael. Michael n'était pas déjà général à l'époque. C'est Michael qui a acheté le problème. Michael a affronté personnellement. Michael était très courageux. Hein? On ne devient pas général comme ça. Commandant en chef des troupes célestes, il a le mérite. Au ciel, là, c'est très compliqué. D'ailleurs, là-bas, c'est très compliqué. C'est que les gens qui parlent ne connaissent pas ces éléments chronologiques. Maintenant, il y a autre chose qui me vient à l'esprit. Dieu ne peut pas accorder sa gloire aux autres dans un champ comme celui-ci. Il y a des gens, quand tu veux les traiter, Dieu refuse parce que quand la personne va guérir, il va donner la victoire au diable. Ça va être comptabilisé dans son camp. Comment se fait-il qu'une créature aussi têtue que l'autre là, aussi méchant, aussi vicieux, qui a développé toute forme de vice, inqualifiable, innommable, qu'on veuille que, quand quelque chose est fait par Dieu, que ce soit à lui la victoire? Non, ce n'est pas possible. C'est une question de justice même dans cette affaire. Je vous donne un élément simple pour clôturer. Vous ne pouvez pas avoir un champ de plusieurs hectares. Vous recrutez un employé. Il vient, il utilise tout le champ. La récolte, vous n'avez plus rien. Il fait ce qu'il veut, il gâte le champ. Le jour où vous dites que ça suffit comme ça, on dit que vous êtes méchant. La terre ici, c'est le diable qui a créé ça. Le psaume 24, verset 1 à 2 dit que la terre, tout ce qu'elle renferme et tout ce qui y habite appartiennent à Dieu. Donc, en fait, cet homme a besoin de délivrance. C'est son premier problème. Son besoin de délivrance, c'est d'abord au niveau de la parole. Il faut qu'il connaisse sa parole. Il a besoin de délivrance, deuxièmement, parce qu'il a envoûté. Il est vraiment envoûté. C'est pourquoi il dit des choses comme ça. Il a besoin de délivrance parce que sa souffrance a fait que même le peu de lumière qui est entré en lui, il a tordu, ça s'est devenu ténèbres. C'est quand on ne marche pas avec Dieu qu'on ne comprend pas. Quand on parle même, lui qui parle, parce que c'est un cas simple. Si Dieu était méchant, il serait plus vivant. Je dis ça, hein? Si Dieu était méchant, il ne serait plus vivant. Il est écrit toujours dans le psaume 103 que Dieu ne nous juge pas selon nos péchés. Si Dieu jugeait selon les péchés, on n'aurait pas 7 milliards d'habitants actuellement. Je crois qu'on n'en aurait même pas 500 millions. Oui. C'est que sur 7 milliards, on aurait 500 millions de vivants. Le reste, même ça. Oui.
Je voudrais donc savoir, et si aujourd'hui Lucifer décidait de se repentir?
Il ne peut pas. Il ne peut pas parce que d'abord, Lucifer a un péché qui le tient jusqu'à aujourd'hui, c'est l'orgueil. C'est le premier péché que Dieu n'accepte pas. C'est l'orgueil. Deuxième chose, il a créé tout un royaume et il a pris plaisir à commander dans l'injustice, le vol. Il ne peut pas se repentir. Le vol, le mensonge, la destruction et les crimes. Mais et il est avancé à un stade où l'option même de se repentir n'existe pas dans son logiciel.
Envoyez une question encore.
Oui, une dernière question.
Voilà, envoyez. Tout à l'heure, vous avez dit Lucifer a été rejeté sur la terre pour son orgueil. J'aimerais savoir.
Pas exactement. Il a voulu la place de Dieu.
Justement, parce qu'il était orgueilleux, il a voulu la place de Dieu.
Oui.
Voilà. Qu'est-ce qui nous détermine, nous et les anges? Parce que lui, Lucifer, c'est un ange de Dieu. Alors nous, les hommes, je ne sais pas si je fais l'erreur, je crois penser que nous, les hommes, sommes au-dessus des anges. Parce que les anges sont à notre service. Si je me trompe...
Les anges sont à notre service. Oui. Mais pourquoi nous avons... Mais c'est normal, non? C'est vrai, c'est la parole qui le dit.
Bon, donc ça veut dire donne de façon les anges avec notre libre arbitre.
Pardon?
Est-ce que les anges ont un libre arbitre?
Les anges,
oui,
ont un avantage que les hommes n'ont pas. Parce qu'il faut bien comprendre, cette question est intéressante. L'homme a quelque chose qui le met en difficulté sur cette planète. Il est dans le corps physique. Le fait que tu sois dans le corps physique, qui est un corps corruptible, crée des conditions spécifiques que toi tu as qu'un ange n'a pas. Les anges se ressemblent beaucoup, mais ils n'ont pas de sexe. Quand tu vois un ange qui ressemble à une fille ou qui ressemble à un homme, tu dis que il, elle, ça c'est tes oignons là-bas, il n'a pas de sexe. Donc, maintenant, à partir du fait que nous soyons faits différemment des anges, à partir du fait que nous ayons un contrat particulier avec Dieu, à partir du fait que nous ayons un mandat que les anges n'ont pas, parce que Dieu nous crée avec le mandat de partenariat. Les anges ont été fabriqués avec un mandat d'obéissance et de service. Point. Or, ici, on a un mandat de partenariat. Et dans ce partenariat, nous devons passer les examens. La vie sur Terre est une école dans laquelle on doit passer. Je vais le dire de façon plus synthétique. Avant la vie sur Terre, il y a une vie. Nous existons avant d'arriver ici. Et quand nous arrivons ici, la Terre nous donne une enveloppe physique, ce corps. Et après la vie sur Terre, il y a une vie. Donc, le passage sur terre nous permet de déterminer si nous allons aller en enfer ou bien au paradis. Les anges n'ont pas ce dilemme. Ceux qui ont suivi Lucifer ont nous. Mais la parole dit, nous allons les juger. Il y aura le tribunal et c'est nous les hommes qui allons juger les anges. Ça n'est écrit nulle part que les anges vont juger les hommes. Et quels anges on va juger? Les anges déchus qui sont nuisibles dans vos vies. Les autres n'ont pas eu assez à être encore déchus ou bien à organiser la rébellion. Donc le statut de l'homme est un statut que les anges envient. et que les autres envies, de toute façon, tous les démons spécialisés, ce sont les anges qui se sont spécialisés. Les sirènes et tout le reste là, ce sont des anges qui sont spécialisés, se sont même transformés à cause de la spécialisation. Nous avons l'avantage d'avoir un élément de contact environnemental, le corps physique. Il nous envie ça. Parce que nous avons accès au plaisir. Oui. Toute forme de plaisir qu'ils ne peuvent pas connaître. Ils nous envient ça. Ils nous envient d'être les fils de Dieu. À ce titre, nous avons des grâces spéciales, comme nous sommes ici. Au lieu d'être juste obéissants et tout ça, ils ont dit que bon, mais on vient voler. Le statut de l'homme est un statut spécial dans la création. L'homme et l'ange sont des catégories différentes. L'homme est le fils du Créateur. Il jouit d'un statut royal de par sa nature. Mais il doit passer les examens. Alors que les autres ont un mandat d'obéissance et de service et tout. Si je demande à un ange de rester sur cet arbre pendant 1000 ans, il ne bouge pas. Mais il fait son travail. Lui ne sait pas que j'ai envie de pisser, j'ai envie de manger. Il n'a pas... Il va se tenir là. Si on lui demande de surveiller un rayon de 2 km étant là, il va rester là. Il n'a pas faim, il ne se fatigue pas, il n'a pas de problème. L'homme ne peut pas faire certaines choses. Les anges peuvent le faire à cause du programme initial qui est le leur. Nous, nous devons passer les examens. Les anges sont déjà programmés. Ce sont de très grands... Quand je dis souvent certaines choses, ce sont de très grands spécialistes. Ils n'ont rien pour les distraire. Nous, on a la chair qui nous tient. Quand on parle de la chair, nous avons quoi? Nous avons le corps physique, nous avons l'âme. Et ils n'ont pas le corps physique. Oui, on est sensible à tout ça. Les formes, les couleurs, les mouvements. Nos statuts sont tellement différents qu'il n'y a pas de comparaison à faire. En réalité, avant la vie, il y a une vie. Sur terre, il y a une vie. Après la terre, il y a une vie. Ici, il faut passer les examens dans la marche avec Dieu. Parce que Dieu nous a réservé une place royale dans son royaume, une place de choix. Et même là-bas au paradis, il y a les classifications selon le mérite. Tout le monde va faire la même coupe.
C'est ça.
Je peux continuer?
Oui. Merci.
Bien. Je vous ai parlé de Genèse 3, le verset 8 à 10. Concernant le péché d'Adam et Ève, quand ils sont allés se cacher. Moïse a lui aussi connu cet aspect de la crainte de Dieu. Quand il a passé 40 jours et 40 nuits à intercéder en faveur du peuple qui avait péché devant Dieu. Car j'étais effrayé, c'est ce qu'il dit, à la vue de la colère dont l'Éternel était animé contre vous, jusqu'à vouloir vous détruire. Deutéronome 20, le verset, non, Deutéronome 19, 9, le verset 19. Deutéronome 9, le verset 19, notez la référence. De même, dans le Nouveau Testament, réalisant l'immensité de la vengeance et du jugement de Dieu, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, qui est Paul, dit « C'est une chose terrible. » Je vous disais ça, non ?« C'est une chose terrible de tomber entre les mains de Dieu, du Dieu vivant. » Hébreux 10, verset 31. Autre argument maintenant, pourquoi craindre l'Éternel? Pourquoi craindre l'Éternel? Les raisons pour lesquelles nous devons craindre l'Éternel découlent de la signification même de la crainte de Dieu. 1. Nous devons craindre Dieu à cause de sa grande puissance qu'il a manifestée en créant toutes choses et tous les êtres humains. Pour ceux qui doutent du fait que nous soyons supérieurs aux anges, il y a un prophète qui a essayé de se prosterner devant un ange. L'ange lui a interdit. Il lui a dit non, non, non. On est frères dans le service. Ne fais pas ça. Qui a fait ça? Voilà. C'est Jean. Non. Je ne suis pas supérieur à toi. On est frères dans le service. Nous travaillons tous pour la gloire de Dieu. Donc, vous qui craignez, je le dis comme ça, vous craignez les hommes parce qu'ils sont musclés. Vous créez les hommes parce qu'ils sont capables de commander des petites choses contre vous, menaçant la chair, menaçant votre argent, vos positions de pouvoir. À plus forte raison, le Créateur, celui qui a tout, qui est tout, qui a tout créé et qui est au-delà de la création et de la créature. Donc, le psaume 33, le verset 6 à 9, psaume 33, le verset 6 à 9, j'aimerais qu'on le lise, psaume 33, le verset 6 à 9, qu'on lise aussi le psaume 96, le verset 4 à 5, et qu'on lise Jonas 1, le verset 9.
Psaume 33, du verset 6 à 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Amen.
Amen. Le simple bon sens. Bien-aimé, si vous avez affaire à quelqu'un qui est capable de tout faire par la parole, n'est-il pas dangereux? Mais il est extrêmement dangereux. Il vaut mieux pour vous que quand il parle, là, que ce soit dans le sens qui est bon. Hein? Parce que s'il parle dans l'autre sens, oula! Donc, il peut créer les cataclysmes comme il veut, juste par la parole. Mais vous avez intérêt à comprendre que nous devons avoir une bonne relation avec Dieu. Mais il y a des hommes qui n'ont pas conscience du fait que Dieu peut tuer l'être humain comme vous tuez les mouches et les moustiques. Comme ça, tac.
C'est ça.
Mais il faut prendre conscience de ça. Ce n'est pas parce qu'il est miséricordieux qu'il ne peut pas. Il peut. Il peut te briser comme un brindille de balai, de bambou. Comme ça, tac, c'est fini. Les gens vont venir bavarder, tu es déjà mort. Vous vous rappelez de l'histoire de l'arche de l'Alliance qui s'est inclinée et un homme a voulu toucher que non, mais ça peut se battre. Pam! Il est mort sur le champ. C'est cet incident qui a fait que David était dégoûté au point de que l'arche ne rentre pas chez lui, que ça reste d'abord. C'est quoi ça? Que il a tué comme ça? Comme ça? Il faut vraiment prendre conscience du danger. Même si ce n'est pas l'élément motivationnel premier que vous devriez avoir. Parce que, d'un point de vue de l'expérience, la petite expérience, la modeste que j'ai dans la marche avec Dieu, je ne pense pas, de mon point de vue, que le côté-là doit être celui qu'on doit d'abord regarder. Qu'on fait les choses qui soient bien pour Dieu, juste parce qu'on a peur qu'il nous tue. Ce n'est pas intéressant. C'est de la cécité mentale et spirituelle. On doit faire les choses pour Dieu par amour pour lui. Parce que, maintenant alors je vais vous faire le marketing. Parce qu'on a conscience de ce que plus il est content de nous, plus on gagne. Plus il se glorifie dans notre vie. On gagne. On a la sécurité, on a le bien-être, on a le confort, on a tout. On le dit tout simplement comme ça. Tu es là, tu es tiède. Tu n'es jamais chaud. Bon, je vais pas toucher le portable parce que tu es touché un peu, monsieur. Oui, mais... c'est l'angle où toi tu vois la chose. Tu es ce mandat. Mais regardez un pays comme le Cameroun qui a des lois infimes. Le Cameroun a des lois qui passent le temps à interdire. On ne sait pas ce qu'elles permettent. Mais ça veut dire que les cerveaux sont sclérosés. La loi seulement ne fait que interdire. Elle permet quoi? Oui, il y a des scléroses dans les cerveaux. Quoi? Les cerveaux sont atteints de cancer mental et spirituel.
Petit mot de ça.
J'ai déjà dit. Vous comprenez ce que je dis? Vraiment, si vous voulez faire les choses par rapport à Dieu, parce que vous avez peur qu'il vous tue, si c'est tout ce que vous avez vu de bon, vraiment, vous n'avez pas compris la crainte de Dieu. Ayez le challenge de faire les choses avec le souhait, l'envie, le besoin, le désir ardent qu'il soit toujours fier de vous. Là, c'est une bonne motivation. Là, c'est intéressant. Il va te verser l'onction à des niveaux insoupçonnables. Amen. Comme il verse ça sur l'envoyé.
Amen.
C'est une place.
chose.
Comment?
C'est une place.
Une place. Une grâce.
Non, c'est une place. La réception de l'onction, c'est une place.
Ce que je vais vous dire aujourd'hui, parce que quand je parle, certains se disent que, ah, comme il a dit, comme l'envoyé, est-ce qu'on parle d'un verset comme pour lui? La réponse à la question est oui. La réponse à la question est oui. Dieu peut vous donner beaucoup, énormément. Il n'a pas dit de vouloir la place de l'envoyer. Il a dit de bien occuper votre place. Remplissez-la déjà bien. On voit. Il peut vous faire remplir votre place jusqu'au débordement d'onction. Excellez. Et vous allez exceller au point où il y a des choses où il va se glorifier chez vous, plus qu'il se glorifie même chez l'envoyé. C'est une question de disposition de cœur. Sauf que bon, comme j'ai mis la barre haut, il faut quand même suivre. Vous avez un père spirituel, un père dans cette nation, il n'est pas spirituel, parce qu'il ne peut pas être père spirituel. Biabim Vondor pour le Barthélémy. J'ai suivi un morceau de son discours l'autre jour. Que, mais les femmes ont mis la barre très haut. Et ça fait que les hommes sont venus relever les défis. Si l'envoyé met la barre très haut, ça doit être un élément motivateur. Nous tous, on ne doit pas servir Dieu de la même façon. Nous tous, on ne doit pas être dans le plein service à Dieu. C'est-à-dire en étant des évangélistes, tout ça. Mais nous tous, nous pouvons servir Dieu 24 heures sur 24 à travers notre comportement. Si c'est que je fais la cuisine au Pelé Makala, je dois faire le Pelé Makala jusqu'à ce que Dieu lui-même descende et que je vais entrer dans le corps si je veux goûter les bains.
C'est la chorale.
Si c'est la chorale que je veux faire, je dois chanter jusqu'à ce que Dieu lui dise que oui, à cause de ça. Désormais, mes enfants, si quand quelqu'un ouvre la voie, les grâces descendent à cause d'eux. Si je dois évangéliser au bureau, tu évangélises jusqu'à ce que Dieu dise que... Il dit à l'envoyé que mon fils, celui-ci doit devenir un évangéliste dans le ministère. C'est parce que tu n'es pas là. Mais il évangélise souvent au bureau. Que quand il traumatise ses chefs... Souvent, quelqu'un commence, il casse tout le monde à les arguments, c'est que plus personne ne parle, tout le monde devient gentil. Si je suis un mari quelque part, je ne dois pas traumatiser ma femme parce qu'elle dit que non, tu dois être un bon mari qui applique la parole. Quand je suis une épouse, je dois être une bonne épouse qui applique la parole. Oui, je dois être seulement en train de dire que, en tout cas, j'ai peur que Dieu me punisse. Ce n'est pas le bon angle. Le bon angle... C'est, j'ai besoin que Dieu soit fier de moi. J'ai besoin d'être attaché à la parole au point où Dieu dise que voilà un enfant qui me ressemble. Plus il évolue, plus il ressemble au Christ. Et comme il veut ressembler au Christ, le Christ va s'imposer dans sa vie jusqu'à des niveaux insoupçonnés.
Amen.
Quand je vous donne le secret que dans ce ministère, il y a des dons spirituels qui ne sont même pas répertoriés. Imaginez le champ immense de dons spirituels que le Père éternel peut verser en vous parce qu'ils sont disponibles dans le ministère.
Amen.
Si vous voulez comprendre ce qu'est la crainte de Dieu, que votre âme tout entière, que votre esprit, en anglais, on dit summarize. Résume. Voilà. Résume la crainte de Dieu dans l'amour de Dieu. C'est-à-dire que quoi? Frères et sœurs, je parle en tant que frère pour vous. Quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on lui ment?
Non.
Quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on le frustre?
Non.
Quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on le blesse?
Non.
Quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on le piétine?
Non.
Quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on l'insulte?
Non.
Quand on aime quelqu'un, est-ce qu'on le trompe?
Non.
Si vous réussissez à résumer la crainte de Dieu dans l'amour, vous allez être parfait dans la loi. Parce qu'en l'amour, on est parfait. On vous donne un enseignement pour que vous voyez les segmentations, mais il y a un raccourci efficace. C'est l'amour. Allez lire 1 Corinthiens 13 à titre de méditation. Tout 1 Corinthiens 13. Allez le lire. Parce que quand on donne un enseignement comme ça, il ne faut pas que les gens le reçoivent de façon infime. Je vous donne le raccourci. Je vous donne la dimension opérationnelle. Je vous donne la dimension pratique et efficace. C'est celle de l'amour de Dieu. Quand vous aurez compris ça, vous ne serez plus dans les choses que oh, j'ai peur. L'amour fait que. Et vous avez. C'est écrit dans la parole pourtant. Il est écrit dans la parole que l'amour fait que. Et ça, c'est un péché. Tu n'auras même plus peur parce qu'à cause du fait que c'est une relation d'amour, il va regarder comme ça. Il a dit que tu as la chance que je t'aime et tu m'aimes beaucoup. J'efface ça. Mais il faut être dedans. Il faut être dedans. Il faut être dans la position de l'épouse, la bien-aimée. Au lieu d'être l'enfant de dehors. Vous comprenez? On vous donne l'enseignement, mais vraiment, il faut que l'enseignement ait une dimension opérationnelle, que vous puissiez puiser dedans, vous nourrir dedans, au quotidien. Vous pensez que s'il a envoyé du Dieu créateur passer le temps à vivre en disant que, vraiment, j'ai peur que le Père me punisse, hein. Vraiment, il veut que j'enseigne, il va enseigner un peu, hein. Sans chaleur, sans saveur, sans éclat, parce que bon, il a dit d'enseigner. Pour que Dieu se remplisse en toi, il faut que tu te préoccupes d'entrer en lui. Plus tu vas vers lui, plus il se remplit en toi, plus il enlève ce qui est mauvais en toi, et plus il te remplit de lui. Amen. Je vous ai fait un témoignage ici. En fait, je n'ai pas décodé. Pourquoi une femme dont j'ignore jusqu'au nom, à l'instant où je la rencontre, je lui dis, tu vas accoucher dans 3 jours. Parce que Dieu se remplit suffisamment en moi pour prendre le contrôle de mon corps comme il veut, quand il veut, au moment où il estime opportun, au point où ça dépasse mon conscient. Si tu ne lui donnes pas l'espace, il ne fait pas ça. S'il ne sent pas que dans ton être, tu es préoccupé de lui plaire, il ne fait pas ça. Il te laisse là-bas te débrouiller sans lui. Vous comprenez ce qu'il dit? Quand vous arriverez à ce stade, et ça peut arriver à n'importe qui d'entre vous, plus vous investissez dans la marche avec Dieu, plus Dieu prend de lui vers en vous. Ça fait que très souvent, certaines de vos actions seront les actions de Dieu. Amen. Dans les situations les plus simples, les plus banales, les plus quotidiennes, dans tous les compartiments de vos vies, vous serez souvent en train de parler à quelqu'un, c'est Dieu qui est en train de parler à travers vous. Et pourtant, vous êtes conscient, c'est Dieu qui est en train de parler. C'est déjà arrivé à beaucoup de gens dans ce ministère, mais ils n'ont pas compris le processus. Vérité. Vous savez, quand j'ai parlé ici dimanche dernier, je parlais avec mon cœur. Parce que je me demandais, est-ce qu'ils ne comprennent pas que si le Père est devant, le Père que nous appelons Jésus-Christ est devant, si moi l'envoyé, je suis le suivant, c'est parce que je fais tout de tout mon être. Il n'y a pas une partie de moi que je laisse derrière. Et si je donne tout ce que je suis, tout ce que j'ai, comment eux, ils n'ont pas compris qu'il faut seulement suivre?
On suit déjà.
Comment peut-il y avoir un écart entre vous et moi, alors que je vous ai montré que voilà le Père, suivant. Vous savez quoi? On peut vous enseigner sur beaucoup de thèmes pendant des années. On va regrouper ça en 2 mots. L'amour et la foi.
Amen.
Il ne s'agira toujours que de cela. La crainte de Dieu ne prend en densité, en épaisseur, que quand on a compris qu'il s'agit d'amour. Et ce n'est qu'à travers l'amour qu'on peut enseigner. Regardez, pour donner comme un doigt, il faut posséder plus qu'un bras. Pouvez-vous donner ce que vous n'avez pas?
Non.
Pouvez-vous transmettre ce que vous n'avez pas reçu?
Non.
Applaudissez pour l'Esprit Saint. Donc, gardez les références de psaume 33, le verset 6 à 9. Vous gardez aussi psaume 96, le verset 4 à 3. Vous gardez aussi Jonas 1, le verset 9. Vous vous rappelez le Jonas, non? Voilà. En outre, la grande puissance qu'il continue de manifester sur les éléments de la création et sur tout, sur nous, a de quoi nous inciter à le craindre. Quand on regarde ce qui est écrit dans Exode 20, le verset 18 à 20, Les enfants, quand j'enseigne, je veux le silence. Je ne veux plus d'interférence ici quand j'enseigne. C'est doublement dangereux. Un, vous n'écoutez pas. Deux, vous courez le risque de mettre l'Esprit Saint en colère. Il vaut mieux que je vous mette en garde avant que ça se gâte. Vous n'avez pas encore entendu Dieu gronder dans votre poitrine au point où vous avez l'impression qu'elle va exploser. Lisez Exode 20, le verset 18 à 20. Exode 20, le verset 18 à 20. Que quelqu'un d'autre prévoit, Ecclésiaste 3, le verset 14. Qu'une autre personne prévoit, Jonas 1, le verset 11 à 16.
Exode 20, verset 18 à 20. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'exécuterons. Mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Amen.
Pourquoi la crainte de Dieu est utile? Dans une lecture comme celle-là, la crainte de Dieu est un élément de sécurité pour le croyant. Parce que si le croyant n'a pas la crainte de Dieu, il risque de pécher. Et s'il pêche, il risque de mourir. Parce que le péché conduit à la mort. Il faut comprendre les choses dans leur mécanicité. Est-ce qu'on peut nous lire la suite? On a dit Ecclésiaste 3, le verset 14, Jonas 1, le verset 11 à 16.
Ecclésiaste 3, verset 14. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à y en retrancher, et que Dieu agit ainsi, afin qu'on le craigne. Amen.
Amen. Dieu veut qu'on le craigne, pas seulement à cause de sa royauté, mais parce qu'il veut toujours que l'homme se préserve. Se préserve de tout ce qui peut l'amener à la mort. Parce que Dieu, ayant établi des lois justes et équitables, ne peut pas s'opposer à sa propre loi. Parce que sa loi fait partie de sa parole. Et sa parole, c'est lui. Donc, sa loi, c'est lui. Est-ce que vous comprenez ça? Si la parole de Dieu, c'est Dieu, c'est que la loi de Dieu qui est faite de sa parole, c'est toujours Dieu. Et Dieu ne peut pas s'opposer à sa propre loi. Il préserve l'homme de façon à ce que l'homme ne se retrouve pas en contradiction par rapport à cette loi. Parce que s'il se trouve en contradiction avec cette loi va le frapper. C'est vrai, quand on va dans les enseignements approfondis, il y a la grâce. Oui, il y a la grâce. Oui, il y a la miséricorde. Mais cette miséricorde fait encore partie de la loi. Et il faut connaître les conditions sous lesquelles activer le principe de la miséricorde. Sinon, vous ne pouvez pas l'avoir. Ce n'est pas que tu es attaché à des péchés hideux aux yeux de Dieu, tu dis que tu veux la miséricorde. Tu vas te regarder en te demandant que c'est quoi, tu t'es perdu. La miséricorde n'est accordée qu'à ceux qui le craignent et mettent en pratique la parole. C'est-à-dire que c'est quand tu as déjà la crainte et la mise en pratique que tu as droit à la miséricorde. Donc tu peux tomber, mais à condition que tu aies même déjà rempli ça constamment. Là, il regarde, il étudie le dossier en ta faveur. Comme vous dites souvent en français facile, là, ton dossier est défendable. Mais on regarde le cœur, on regarde l'état d'âme, on regarde l'élan, on ne voit personne. Tu apparais, là, il regarde. Où? Comment? Parce que les gens qui vont en enfer joyeusement et qui sont dans un enfer sont très nombreux à dire ça. Quand tu dis à quelqu'un de se ressaisir dans sa vie, « Ah, Dieu est miséricordieux, non, il y a quoi ?» Comme hier, c'était l'une des meilleures journées d'enfer. La Saint-Valentin. C'est l'un des jours dans l'année où la fornication atteint des niveaux records. Quelle misère.
Surtout quelle ignorance.
Quelle ignorance. C'est à pleurer. que les amoureux qui sont dans le bon couloir avec Dieu se souhaitent bonne fête. Mais c'est 99,999% de gens qui sont perdus, qui sont dans la fête Saint-Valentin. Les concernés même ne sont pas dans la fête. Ceux qui sont dans la légalité. Quelle misère. Quelle misère. Donc vraiment, il faut comprendre le sens de la loi et son essence. Que les gens ne vous disent pas n'importe quoi. Apprenez à comprendre le sens des choses et l'essence des choses en marche avec Dieu. Quelqu'un m'a demandé à une chaîne de un média que oui, mais pourquoi vous êtes dur comme ça? Nos parents avant qui pouvaient, s'il n'y avait pas le mariage civil, tout ça. Mais nos parents avant étaient mariés légalement. Vous racontez quoi? La dot se faisait. Si une fille était mariée à 16 ans, que son mari a 18 ans ou 20 ans. Parce que, de toute façon, le diable n'avait pas encore atteint ce niveau de dégâts où il crée la misère, il crée la crise de manière que les gars ne peuvent pas se marier. Pourquoi les gens n'arrivent pas à se marier majoritairement? Ils n'ont pas de ressources pour s'en sortir. À cause de ça, ils commencent à se débrouiller, à s'embrouiller. Là où avant, un enfant à 20 ans avait dans son patrimoine tranquillement au village, il a son champ, il a... Comment, il y a quoi? Il peut se marier. Il est autonome. Le diable a augmenté l'injustice, a créé la misère, a augmenté les pauvres. Mais le temps passe. Les démangeaisons dues à l'âge évoluent. Et il faut assumer tout ça. Or, la loi, et c'est toujours le même diable qui fait ça, la loi oblige à respecter certains critères. Mais quand il voit que ça ne suffit pas, il excite les femmes à mettre tout dehors pour que les gars se réveillent en disant « Où me mets-je? Qu'est-ce que j'ai vu ?» Parce que quoi? Si les femmes s'habillaient mieux, on aurait moins de problèmes. Mais comme le diable sait comment l'homme est constitué, il dit que mais, non seulement j'ai rendu le gars misérable, mais il faut que j'excite sa libido. Comme ça, je vais venir me servir un peu plus vite. Partout, tu vois les choses s'agiter. Des trucs qui devaient être bien couverts, emballés à distance de sécurité. C'est tout serré de tous les côtés. Et puis... Mais quand même, c'est un problème. Donc, quand on dit que non, les parents sont nombreux à avoir eu la grâce qu'à 20 ans, il était déjà un adulte socialement. Il pouvait construire sa maison. Est-ce qu'on devait construire déjà la maison? C'est, il construit sa hutte propre là. Il a son mouton que papa a donné. Il a la parcelle de champ. Il travaille. Il peut gérer une femme et avoir les enfants. Le diable a créé le désordre, a créé l'injustice, a fait grandir le désordre, a fait grandir l'injustice. Et il a donc amené les gens vers l'abattoir. Les gens viennent me comparer les univers qui ne sont pas comparables. C'est ça le process. Et la seule façon de s'en sortir des griffes comme ça, du diable, c'est d'être avec Jésus-Christ. Là, Jésus-Christ organise vite tes choses et tu prends le bon couloir, vite. Et même les mauvaises choses, il dit que le passé est passé. Ça va. Repentance, conversion, c'est bon. Allons maintenant ensemble, sois propre. Vous voyez alors, qu'on ne vous pose pas les questions bêtes. Donc, il faut comprendre l'esprit de la parole. Lorsque nous prenons conscience de la sainteté de Dieu et de la sainteté de notre Dieu, parce qu'il faut se l'approprier, c'est-à-dire du fait qu'il se tient à l'écart du péché et qu'il s'y oppose, notre réflexe naturel est de craindre ainsi Dieu. Je vais vous donner plusieurs passages. Hein, parce qu'il y a Exode 20, le verset 18 à 20. Parce que je suis en train de conclure, je ne vais pas rester là. Exode 20, le verset 18 à 20. Ecclésiaste 3, le verset 14. Jonas 1, le verset 11 à 16. Marc 4, le verset 39 à 41. Je reprends. Exode 20, verset 18 à 20. Ecclésiaste 3, le verset 14. Jonas 1, le verset 11 à 16. Marc 4, le verset 39 à 41. Vous avez Apocalypse 15, le verset 4. Autre chose, tous ceux qui ont vu la splendeur de la gloire de Dieu ne peuvent s'empêcher de le craindre. Lisez Matthieu 17, le verset 1 à 8. Tous ceux qui ont vu la splendeur de Dieu ne peuvent s'empêcher de le craindre. Matthieu 17, le verset 1 à 8.
Matthieu 17, du verset 1 à 8. Six jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme ils parlaient encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix qui entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Amen.
Amen. Quand tu vois la gloire de Dieu, tu ne peux être que saisi de peur. Quand ils ont regardé Jésus-Christ dans sa vraie dimension, ils ont vu Dieu, le lumineux, l'éclatant, l'indescriptible. Ils ont compris que là, dans cette phase de transfiguration qui montre la vraie nature divine de Jésus-Christ, le temps d'un instant, ils ont compris qui est en face. Ils ont compris. Et ils ont eu la crainte de Dieu à cause de cela. Les bénédictions incessantes de Dieu qu'il nous accorde, et plus particulièrement le pardon de nos péchés, sont des éléments qui doivent nous amener à craindre, à le craindre et à l'aimer. Quand on lit l'esprit de 1 Samuel 12, verset 24, on en a la confirmation. Ainsi que le psaume 34, le verset 10. 1 Samuel 12, 24, psaume 34, le verset 10. Ainsi que Jérémie 5, le verset 24. Dernier point, il est certain que rien que le fait de savoir que Dieu est un Dieu de justice qui jugera l'humanité tout entière pousse l'homme à le craindre. C'est une sainteté et une solennité qui est une vérité qui s'impose à l'humanité. Dieu observe et évalue constamment nos actions, les bonnes comme les mauvaises. Et il nous en tient responsables aujourd'hui, comme il le fera au jour du jugement dernier. On va lire ces passages en étant debout. Deutéronome 17, le verset 12 à 13. Vous les prenez. Deutéronome 17, le verset 12 à 13. Ésaïe 59, verset 18 à 19. Malachie 3, verset 5. Et Hébreux 10, verset 26 à 31. Je reprends. Deutéronome 17, le verset 12 à 13. Ésaïe 59, le verset 18 à 19. Malachie 3, le verset 5. Et Hébreux 10, le verset 26 à 31. J'ai dit tout le monde debout. À tes souhaits.
Deutéronome 17, du verset 12 à 13. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur, placez-le pour servir l'Éternel, ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël, afin que tout le peuple entende et craigne, et qu'il ne se livre plus à l'orgueil. Amen.
Amen.
Ésaïe 59, verset 18 à 19. Il rendra chacun selon ses œuvres, la fourreur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen.
Amen. Malachie 3, verset 5.
Malachie 3, verset 5. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger, et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Amen.
Amen. Vous voyez jusqu'à quel point les orphelins, les veuves sont protégés par Dieu, par la parole. Il faut avoir conscience de cela. Il faut lire ces passages et faire très attention. N'allez pas vous ramasser des malédictions en ayant un mauvais traitement à l'endroit des orphelins ou des veuves ou des étrangers. La parole est claire, ça n'a pas changé. L'autre passage, c'est lequel?
Hébreux 10, versets 6 à 31. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur du feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore, le Seigneur jugera son peuple. » C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen.
Amen.
Que ces passages ne sortent jamais de votre esprit, maintenant que vous les avez identifiés. Qu'ils ne sortent jamais de vos esprits parce qu'ils vont vous servir de méditation. Je demande à l'Esprit Saint de faire descendre une onction spéciale en ce lieu, afin que cet enseignement soit scellé dans nos cœurs à tous, qu'il soit vivant pour chacun d'entre nous, au niveau de nos âmes et de nos esprits. Je demande à l'Esprit Saint de bénir chaque personne qui a pris sur elle de venir ici aujourd'hui, elle et sa famille, de bénir vos affaires, de bénir ainsi vos activités, de vous trouver des solutions pour chaque problème que vous avez dans votre intimité, sur le plan familial, social, conjugal, sur le plan professionnel, sur le plan spirituel. Et que le Seigneur Jésus-Christ se glorifie abondamment dans vos vies. Je voudrais, avant que le groupe de Blaise Job prenne la parole, que nous fassions les offrandes prévues pour l'enseignement d'aujourd'hui. Quand il y a un enseignement, vous savez que l'Esprit Saint travaille toujours en versant des grâces, des bénédictions, en opérant des miracles, des guérisons. Et encore pendant que cet enseignement avait lieu aujourd'hui, beaucoup de choses sont descendues, beaucoup de miracles se sont opérés silencieusement et les témoignages vont suivre dans bientôt.
Amen.
Donc l'offrande, les offrandes pour l'enseignement d'aujourd'hui, il faut les apprêter, que je les bénisse. Je vous ai dit, bon, vous attendez toujours qu'il y ait une manifestation puissante. J'ai dit que les choses sont en train de descendre, ce n'est pas fini. J'ai dit qu'il y a des miracles qui s'opèrent, qu'il y a des guérisons qui s'opèrent, qu'il y a des grâces qui descendent. Apprêtez les offrandes pour le Seigneur et après cela, on va passer la parole à Blaise et son groupe qui ont certainement quelque chose à nous dire. Père éternel, ta parole dit que tous ceux qui apportent des offrandes, des dîmes dans ta maison, tu chasses le dévoreur, tu menaces les dévoreurs, tu ouvres les écluses du ciel pour eux. Que cette parole, Père éternel, s'accomplisse dans leur vie. Que vos grâces se matérialisent dans tous les compartiments de vos vies. Que les bénédictions inondent tous les compartiments de vos vies. Que le dévoreur, la sécheresse, la misère, les frustrations, les humiliations quittent votre vie.
Amen.
Et que le Seigneur se glorifie abondamment dans votre existence.
Amen.
Et que Dieu vous bénisse.
Amen.
What shall I render? Oh, what shall I render to the Lord? What shall I render? Oh, what shall I render to the washall, what shall I render? Oh, what shall I render to the washall, what shall I render? Oh, what shall I render to the Lord? What shall I render? Oh, what shall I render to the washall, what shall I render?
Oh, what shall I render to the
washall? What shall I render? Oh, what shall I render to the Lord?
Didier, Blaise, vous avez la parole.